Pour une majorité de croyants, la religion est une affaire de tradition familiale, d'habitude, de conformisme. Que le Christ ait été crucifié n'a eu sur leur vie aucune répercussion et n'influe en aucune manière sur leur façon de se conduire. Leur religion se borne à la pratique de quelques rites, elle est purement extérieure. C'est un vague christianisme que l'on professe à certaines occasions, comme on revêt de temps à autre un habit de circonstance. La parole du prophète Ésaïe, citée par Jésus à l'adresse des pharisiens, s'applique encore aujourd'hui. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » En effet, dans une telle attitude, il n'y a ni sincérité ni conviction, parce qu'il n'y a jamais eu de vraie conversion. C'est précisément en ce mot que nous nous arrêterons, car sans conversion, il n'y a ni chrétien ni christianisme. Or, qu'est-ce que la conversion ? Avant de la définir, en empruntant le langage du Christ et de ses apôtres, il faut d'abord dire ce qu'elle n'est pas. Se convertir, ce n'est pas passer d'une religion à une autre, comme on passe du catholicisme au protestantisme ou vice-versa. Limiter la conversion à un simple changement de camp, c'est méconnaître l'enseignement des Écritures sur une question vitale. Selon les Écritures, se convertir, c'est effectuer un revirement. C'est revenir sur ses pas. C'est changer d'orientation. Et s'il y a changement de camp, c'est dans le langage de Paul pour passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Voyons quelques exemples tirés de la Bible. Ils nous aideront mieux que tout commentaire à mieux définir la nature de la conversion. L'Ancien Testament est fertile en appel à la conversion. On peut dire que c'était la raison d'être même des prophètes, du fait de la propension au mal qui caractérisait Israël. Ézéchiel, par exemple, est d'une clarté limpide lorsqu'il dit de la part de Dieu « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? Dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? » Dans le Nouveau Testament, c'est essentiellement le même appel. Mais à qui cet appel s'adresse-t-il ? À toutes les couches, à toutes les catégories de la société. Société d'alors ou société d'aujourd'hui. Si le cadre a changé, l'homme est resté essentiellement le même. Aujourd'hui comme hier, il y a des idolâtres, c'est-à-dire des adorateurs de faux dieux, qu'ils rendent un culte à une divinité inventée comme les primitifs, ou qu'ils mettent toute leur confiance en l'argent, en la science ou en l'homme comme les civilisés. Leur vie est une anomalie, une idolâtrie, parce qu'elle méconnaît le seul vrai Dieu, et qu'elle affectionne une autre divinité. Nous vous exhortons à renoncer à toutes ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, disait Paul aux idolâtres de son temps. Puis il y a aujourd'hui comme alors ceux qui sont foncièrement immoraux, c'est-à-dire livrés corps et âme au mal sous toutes ses formes. Ce sont les pécheurs par excellence. Pour eux, la conversion se traduit d'abord par une prise de conscience de leur déchéance devant le regard de Dieu, puis par une décision d'abandonner cet état corrompu en se soumettant à la voix de Dieu. « Grâce soit rendue à Dieu », s'exclame l'apôtre Paul dans une de ses lettres, « de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Après les idolâtres et les immoraux, il y a aussi, aujourd'hui comme hier, ceux qui se croient justes, qui ne doivent rien à personne, qui s'attribuent volontiers quelques défauts, comme tout le monde, et qui se sentent offensés lorsque vous leur parlez de repentir ou de conversion. Ils se disent chrétiens, mais ils n'ont pas besoin du Christ, ni de son sang, ni de sa croix. Ils se suffisent à eux-mêmes. Il n'est que de lire ce que le Christ a pensé des pharisiens de son temps pour connaître son jugement à l'égard d'une telle attitude. Il y a enfin ceux qui sont sincèrement dans l'erreur, qui pensent servir Dieu selon sa volonté, mais qui font fausse route. À eux aussi s'adresse l'appel à la conversion. Exemple, les habitants de Jérusalem, auxquels l'apôtre Pierre concède dans un discours qu'ils ont agi par ignorance en crucifiant le Messie, et à qui il fait cette recommandation : « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. La conversion de l'apôtre Paul est un cas semblable. Avant de devenir le missionnaire bouillant que nous connaissons, il mobilisait toute son énergie pour persécuter à outrance cette engeance de malédiction qu'on appelait les chrétiens. En cela, il pensait être agréable à Dieu. Nous savons comment il rencontra le Christ dans une vision fulgurante alors qu'il était en route pour Damas, dans l'intention d'y persécuter les chrétiens qui s'y trouvaient. Il raconte lui-même comment il demeura prostré pendant plusieurs jours et comment un disciple nommé Ananias vint lui révéler la mission que Dieu lui confiait désormais et l'enjoindre sans plus tarder à être baptisé et lavé de ses péchés en invoquant le nom du Seigneur. À ce point, nous pouvons déjà tirer quelques conclusions, ou du moins faire quelques constatations. Qu'il soit idolâtre, foncièrement immoral ou simplement égaré tout en essayant d'être dans le vrai, tout homme est appelé à se convertir. Tout homme doit se reconnaître dans le fils prodigue de la parabole de Jésus, qui s'égare, se livre au péché et en subit les conséquences. Les textes de l'Écriture soulignent le besoin urgent de se convertir, car il n'y a pas de salut sans conversion. Dans le langage définitif qui caractérise les prononcements du Christ, c'est se convertir ou mourir dans ses péchés. Ceci nous amène à relever cet autre aspect de la conversion, trop souvent oublié, c'est que le salut dans la Bible se conçoit d'abord par le pardon des péchés. Certes, il y a une espèce d'hiérarchie dans le mal. Tous les hommes ne sont pas corrompus ou égarés au même degré, mais cela ne semble pas tellement entrer en ligne de compte dans les enseignements du Christ et de ses apôtres. Le fait est que devant Dieu, tout homme est coupable, et à tout homme, Dieu offre son pardon par Jésus-Christ. Pourvu qu'il se repente comme le fils prodigue, et que ce repentir le pousse à prendre cette résolution, « J'irai vers mon Père, et je lui dirai, j'ai péché. » Et le Père pardonnera, car il n'attend que cela. Et comme ce pardon n'est en aucune manière mérité, c'est une initiative de l'amour de Dieu, et cela s'appelle la grâce. L'apôtre Paul résume cette vérité fondamentale de la religion chrétienne d'une manière magistrale dans sa lettre aux Romains. Après avoir montré que le péché a uni tous les hommes dans une même culpabilité, dans un même besoin du salut, il déclare « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ ». Avec la mention de la rédemption en Christ, nous entrons au cœur du sujet. De même qu'on ne peut pas concevoir de christianisme sans Christ, on ne peut pas concevoir de conversion sans lui. Tout est orienté vers sa personne et vers son œuvre. Perdre de vue cette vérité, c'est oublier l'essentiel. Au début de notre étude, nous avons corrigé cette opinion qui limitait la conversion à un simple changement de religion. Il faut à présent dénoncer cette autre erreur, qui veut affirmer que se convertir, c'est devenir meilleur. En effet, pour devenir meilleur, il faut déjà être bon. Or, ce n'est pas le cas, nous l'avons vu. Dans la pensée du Christ et de ses apôtres, se convertir, ce n'est pas tant devenir meilleur que devenir autre. Comme le fer se convertit en acier par le feu et la trempe, ainsi l'homme est appelé à devenir une nouvelle créature par sa conversion. C'est ce que Jésus a affirmé lorsqu'il dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». C'est aussi ce que l'apôtre Paul enseigne lorsqu'il rappelle aux Éphésiens qu'ils doivent se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et revêtir l'homme nouveau. Il s'agit donc ici d'une renaissance, d'un renouveau, d'une transformation de l'homme par l'intérieur qui transforme du même coup son univers. Car il n'a plus la même orientation, ses yeux se sont ouverts, il possède une espérance, il appartient à Dieu, ses fautes sont pardonnées, il vit. Il est vrai que cette transformation n'est pas immédiate, elle se fait progressivement. Et c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui vient désormais faire du corps de l'homme son temple. Il collabore avec la volonté de l'homme, avec sa conscience, avec son esprit, dans ce travail de renouveau. Mais il y a une chose qui est définitivement accomplie, c'est la promesse du pardon des péchés. Ils sont effacés, pardonnés, oubliés, et cela au moment crucial de l'engagement de l'homme. Précisons. La conversion commence au moment où l'homme libre décide de sa propre volonté de changer de direction. Il a été arrêté dans sa marche par l'appel de Dieu. il a fait le point de sa vie, il a compris qu'il faisait fausse route, il a pris la résolution de se diriger dans la direction indiquée par la voie. Et cette direction, c'est le Christ. « Nul ne vient au Père que par moi », avait-il dit. C'est le Christ, sa croix, sa mort, sa résurrection. Voilà le vrai centre du monde. Si la résolution de se diriger vers le Christ est le commencement de la conversion, le moment de cette conversion, c'est lorsque le pécheur s'associe à la mort et à la résurrection du Christ. Et c'est dans le baptême qu'il peut réaliser sa participation à ces deux grands moments. C'est ainsi que l'Église du premier siècle comprenait la conversion. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Cette exclamation de l'apôtre Paul illustre bien ce que nous venons de dire. Il continue d'ailleurs en ces termes, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » En d'autres termes, dans le baptême, l'homme ensevelit son ancienne vie, et lorsqu'il surgit de l'eau une seconde plus tard, c'est dans une résurrection pour une vie nouvelle. Dans sa lettre aux Galates, Paul utilise une très belle image à propos du baptême. Il écrit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quel moment merveilleux !» Je pense aujourd'hui à tous ceux qui n'ont pas encore pris cet engagement, qui ne se sont pas encore convertis résolument, consciemment, parce qu'on ne leur a jamais parlé ni de la nature, ni de la nécessité de la conversion. Je pense à tous ceux qui ne connaissent du baptême que cette cérémonie qui se déroule autour d'un nouveau-né, qui ne sait rien, ne décide rien, ne comprend rien. Et je pense qu'il faut qu'ils sachent que Dieu attend d'eux un acte de soumission libre, une décision personnelle et franche, une expression de leur foi. Ils sont pour la plupart comme ce peuple de Jérusalem, pieux et sincères. Mais dès qu'ils furent éveillés, par la prédication des apôtres, à la connaissance du Christ, et convaincus de leur culpabilité et de leurs besoins, ils dirent tous « Que faut-il faire ?» Chers amis, si vous vous posez aujourd'hui cette même question, et vous devez vous la poser, vous obtiendrez la même réponse. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.